Affinité élective, une émission de Francesca Isidori. Une langue, des langues, langues entendues, apprises, adoptées, parlées, perdues, refoulées, retrouvées, langues du dedans et du dehors, langues qui cohabitent ou qui s'excluent, dans sa trilogie documentaire entamée en 2004 avec D'une langue à l'autre, poursuivie en 2008 avec Langue sacrée, langue parlée, et qui s'achève aujourd'hui en 2011 avec Traduire, elle tourne et retourne la question de la langue et du langage, qui est aussi celle de la perte et de la transmission, de l'adoption et de l'exclusion, à partir d'une langue, l'hébreu, et du rapport que des écrivains, des artistes de différentes origines entretiennent avec elle et avec leur langue maternelle. Dans langue sacrée, langue parlée, ce sont les strates même de la langue hébraïque qui sont fouillées et mises en lumière par des poètes et des écrivains. Qu'est-ce qui demeure, affleure, de la langue sacrée des Juifs de la diaspora, devenue, par volonté politique, la langue parlée des Israéliens ? D'en traduire, sorti il y a une dizaine de jours, des traducteurs de différents pays évoquent, chacun dans sa propre langue, leur travail de passeur de la littérature hébraïque, leur expérience intime de l'entre-deux-langues, leur corps à corps avec les mots. Les affinités électives de Nourit Aviv.
קיים כמו מכת גרזן המשיג את העורף סדקים ניבים באורך האוויר ובאדם ליל שבת השיר שירים נופל בשאגה לא מולפת של חשק הנה זה בא גוחן הכל שהוא אכזר רק במידה שאב אכזר כלומר מאוד כדי להמית העבר שבר מתיקות חומק הכל ובפה כבר העברית שפה משתרמתת תנועה לפיתויים של גלויות רחוקות סמיכה כמו דם נשיקותיה חטופות או מוות אבל היחידות לעוד קצת נצח לעוד קצת נצח
Bonsoir Nourit Aviv.
Bonsoir.
On écoute la voix de Shimon Adaf qui est poète et qui chante ici un de ses poèmes. Et dans ce poème, il est dit, entre autres, « Cruel, moi aussi, pas assez pour causer un amour, bris de douceur, s'esquive la voix, et dans la bouche, déjà, l'hébreu est une langue pute, soumise aux tentations d'exil lointain, épaisse, telle le son. » C'est dans votre film « Langue sacrée »,« Langue parlée » qu'on peut entendre à la fin du film cette chanson. Qui est ce poète ?
C'est Shimon Adaf, qui est un formidable poète d'origine marocaine. Il était au départ religieux et après il a décidé d'écrire, c'est ce qu'il raconte dans le film, il a décidé d'écrire dans une poésie complètement laïque et qu'il n'y a plus de traces de religieux. Et quand il dit que quand ses poèmes étaient traduits, et les traducteurs, en effet, l'ont pris à la lettre, hein, c'est-à-dire qu'ils ont traduit comme si c'était une couche sans connaître les autres, hein, il a compris que, voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, il y a toujours quelque part la langue langue ancienne qui se mêle avec la langue parlée, et c'est l'une dans l'autre. Et si on veut se débarrasser, c'est pas aussi simple.
Nourita Vive, séance photo pour une ancienne photographe et actuelle documentariste. Une photo, toute petite photo.
Toute petite photo, je crois.
Quelle une toute petite, Nourita Vive.
Oui, quel âge je peux avoir là, à votre avis, à mon avis?
Un an et demi,
deux ans, deux ans peut-être. Je pousse une poupée qui est dans une poussette, mais très déterminée, je trouve. Comme si je poussais les travelling sur lesquels il y a ma caméra. Vous savez que j'étais chef opératrice. Donc pour moi, je vois déjà quelque part celle qui va devenir camera woman.
Le destin de Nourita Vive. Vous êtes née à Tel Aviv à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vos parents étaient arrivés d'Allemagne, je crois, en 1938.
Et de Tchécoslovaquie.
Et de Tchécoslovaquie, du côté de votre mère, je crois. De quelle manière ce pays, l'Allemagne, d'où venait votre père, et la langue allemande qu'ils parlaient, je crois, entre eux, de quelle manière ce pays et cette langue ont-ils existé dans votre enfance?
Et mes parents m'ont parlé en allemand. C'était leur langue, ils m'ont parlé cette langue-là et c'est ma première langue qui dans mes oreilles sonne comme toute langue maternelle avec la douceur qu'elle a. Évidemment, après, j'ai appris l'autre histoire qui vient avec. Et comme je dis dans mon film, que c'est dans le film d'une langue à l'autre, que c'est dans cette langue, ma mère m'a dit qu'elle assassinait sa mère, mais elle me l'a dit en allemand. Donc, c'est les deux à la fois, ça reste ambivalent, mais je tiens beaucoup à... c'est quand même la mienne.
Donc, c'est la première langue que vous ayez entendue?
Oui.
La première que vous ayez parlé, c'était l'allemand?
Oui.
Et au début...
En Palestine, sous mandat britannique, oui. On n'est pas encore... Oui. Quand je commence à parler,
oui.
On n'est pas
ce n'est pas encore l'État d'Israël.
Oui. Comme ça, vous savez mon âge. Mais je suis petite quand même, je commence à parler.
Et justement, au début de votre film, d'une langue à l'autre, on entend votre voix, vous qui êtes extrêmement discrète dans vos films et effacée, on entend votre voix et vous vous demandez quelle est votre langue maternelle et vous posez la question en hébreu.
Oui, et je dis que je ne sais pas répondre avec tout le film que j'ai fait.
Oui, et encore aujourd'hui.
Je ne sais pas parce que quand on me demande... J'ai essayé de demander à celui qui me demande qu'est-ce qu'il veut savoir exactement. Si le monolingue, il ne comprend pas ma question. Parce qu'il dit comment? Mais j'ai dit oui, il y a une langue dans laquelle je commençais à parler et il y a une langue que je maîtrise, que je suis allée à l'école, que je sais lire et écrire et qui est la langue que je maîtrise. Alors, est-ce qu'on parle de la langue qu'on maîtrise ou est-ce qu'on parle de la langue que la mère, les parents ont parlé? Mais je crois qu'il y a une histoire plus intéressante que la mienne, c'est celle de Meir Wieseltier qui parle de la langue russe. Il a complètement oublié, donc il la parle plus aujourd'hui. Ça veut dire, est-ce que c'est sa langue maternelle? Mais il dit, et il savait par cœur, un petit enfant, un prodige, il savait par cœur Pushkin et Lermontov à 4 ans. Et après, il est devenu poème. Et plus tard, quand il a relu sa poésie, il a vu que les rythmes, la musique de Pushkin et Lermontov est dans sa poésie en hébreu, dans une langue qu'il connaît plus. Alors, c'est quoi la langue maternelle? La musique, peut-être.
Mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir dû renoncer à quelque chose?
Moi, je n'ai pas renoncé. Moi, je n'ai pas renoncé, mais l'idéologie dominante était... on a appelé pour renoncer. Moi, je n'ai pas eu à renoncer. Et au contraire, cette langue allemande, je l'ai fait vivre et revivre. En moi, et je crois que la poésie de Celan, lire Kafka et Freud, Celan en hébreu, voilà.
Et
en allemand, je trouve, oui, Celan, c'est bon, si Celan a pu écrire en allemand, avec douleur, mais quand même. Je crois que ce qui est important, c'est garder toutes les langues qu'on peut en soi. Et plus que deux. Je crois que ce qui est important, c'est celle qui vient après. Hein. Après les deux, c'est...
Celle qu'on n'a pas encore apprise.
Non, celle qu'on connaît. Je crois qu'il faut savoir beaucoup plus de langues. Je crois que la troisième ouvre vers l'infini. Deux, c'est encore bilingue, l'un et l'autre. Troisième, ça commence à s'ouvrir.
Nourita Vive, votre père était photographe de presse. Mm-hmm. Et c'est lui qui vous a initié très tôt à la pratique photographique, très tôt, puisque apparemment, vous avez publié vos premières photos à l'âge de 6 ans.
Oui, 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 c'est vrai. Mais on allait vendre, c'est-à-dire on allait ensemble. Moi, je pensais que j'étais un peu son assistante. On allait vendre ses photos dans le journal Haaretz, que vous connaissez peut-être. Mmh. Et après, on allait en face à Haaretz Shelan, ou notre Haaretz, qui était un journal pour enfants. Donc moi, c'était normal, on vend d'abord le sien. Après, on va vendre, entre guillemets, les miens. Et pour moi, c'était quand on fait une photo, elle est publiée.
Et vous avez un souvenir de ces photos que vous faisiez à l'âge de 6 ans?
Ah oui, absolument. Je me rappelle même de moments où je l'ai prise. C'est-à-dire, il y a une photo, qu'est-ce justement, là, je crois que la toute première, celle des 6 ans, était dans le No Man's Land, entre, à Jérusalem, c'est marrant, hein, à Jérusalem, entre, il y avait comme ça les murs qui séparaient les deux, mais entre les deux murs, non, entre les, vers les murs, il y avait un autre petit mur qui faisait la limite pour le, d'un endroit qui est le No Man's Land. Et j'ai pris des photos des enfants qui étaient là, des enfants très pauvres. Et j'ai pris la photo et après, mon père m'a bougé l'appareil photo et parce qu'il m'a dit que derrière l'autre mur, il y a les légionnaires jordaniens qui regardent. Et voilà, c'était un drôle de... Je veux dire, j'étais déjà de l'entre-deux, n'est-ce pas? C'est la première fois que je pense à ça.
Norita Vive, c'est beaucoup plus tard que vous découvrez le cinéma, j'imagine. Ou est-ce que c'était en même temps la photo, le cinéma, la peinture? Est-ce que toutes ces images sont arrivées en même temps ou...
Au début, c'était les images. J'étais l'assistant de mon père. Bon, je l'aidais dans son laboratoire. Je faisais un peu la photo. J'ai découvert le cinéma assez tard. Et... Lazare a voulu que... Bon, c'est un peu compliqué de raconter toute cette histoire, mais en fait, je suis arrivée par Image qui m'a invitée de venir parce que les papes étaient en Israël. Moi, je faisais mon service militaire. Ils ont découvert la petite soldate, ils m'ont invitée. Et quand je suis venue à Paris, moi, je ne savais pas parler le français et le directeur photo, Walter Caron, ne parlait pas très bien l'anglais. Donc notre première conversation était, je lui dis oui, je fais la photo, mais je voudrais faire mieux, je voudrais faire l'image au cinéma. J'ai vu, je ne sais pas, je crois que j'ai vu Hiroshima mon amour, et Les fraises sauvages, encore d'autres films, je dis c'est de l'art, mais je n'ai pas vu beaucoup. Et lui il a répondu, why not? Bon, je crois qu'il ne voulait rien dire. Il voulait juste dire, bon, comme ça, why not? Et ce why not m'a travaillé toute la nuit et tout le mois qui venait. Et je crois que neuf mois plus tard, j'étais à l'IDEC, à l'école du cinéma, à la section prise de vue, en contre-gré de directeur, mais j'étais en prise de vue.
C'est-à-dire que vous choisissez le métier de la prise de vue, d'opérateur.
Il n'y a pas encore de femmes qui l'ont fait, oui.
Et oui, et c'était un métier d'homme, où les femmes étaient plus que rares, elles étaient absentes. Donc... on peut dire que vous êtes la première femme à avoir été officiellement reconnue comme directrice de la photographie en France.
Oui, mais à l'époque, je ne le savais pas. Moi, je fais la photo, je voulais faire la photo au cinéma, mais je ne savais pas du tout qu'il n'y a pas d'autres femmes, que je vais devenir la première directrice photo en France. Je ne savais pas, je n'étais pas dans une mouvance, c'était avant le mouvement de femmes, hein, on est dans les années 60. Je ne savais pas que j'étais pionnière, moi je voulais faire ça. Et quand on m'a proposé autre chose, le directeur, il m'a dit montage. J'ai dit non, moi, je viens de l'image. Donc, il n'y avait aucune raison que je fasse autre chose que l'image.
Alors, vous retournez en Israël. Vous travaillez en 68-69 comme chef opérateur d'un film qui s'intitule L'Escargot et qui ne dit peut-être pas grand-chose à nos auditeurs, mais qui est devenu et qui demeure un film culte en Israël. Donc on vous connaît peut-être, on vous a connu en tout cas pendant longtemps davantage comme chef opératrice de ce film que comme documentariste. Vous revenez en France où en 74 vous tournez pendant 9 mois avec les patients, les pensionnaires de la clinique psychiatrique de la Chenaie, en commençant d'ailleurs à enregistrer le son avant l'image.
si je me trompe pas. Oui, il y avait quelque chose comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un drôle de truc parce qu'il n'y avait pas le montage. Donc, on a enregistré le son et après, on a mis les images sans montage. Mais avant, je suis venue pour faire un film avant La Chenée, pour faire le film avec Bertrand Van Effenter, Erika Minor. En fait, il était avec moi à l'IDEC et il m'a invité de venir. Je suis venue pour faire ce film avec lui en tant que directrice de la photo. Et après, je suis restée un peu par hasard dans cette clinique de La Chenée où c'était un moment très formateur pour moi.
Alors, en tant que directrice de la photo, Nourrit Aviv, vous avez collaboré, vous venez de le dire, avec Van Effenter, avec Agnès Varda, pour son documentaire Daguerreotype. C'est votre première collaboration avec elle, mais il y en aura bien d'autres. Vous travaillez avec René Alliot, ce film très, très, très beau, très célèbre. Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. René Alliot qui vous demandait une lumière sombre et des intérieurs qui ressemblent à des grottes. Et plus tard avec Amos Guitaï et avec tant d'autres cinéastes à travers l'Europe et au-delà. Mais quand on regarde votre filmographie de directrice de la photo, donc une filmographie très riche, il y a plus de 100 films, on s'aperçoit qu'il y a bien sûr beaucoup de films de fiction, mais aussi et surtout des documentaires ou des films qui sont entre les deux. Est-ce que, avant même de devenir cinéaste, de tourner vos propres documentaires, vous aviez une prédilection pour cette forme ? C'est vers la forme documentaire que vous aviez envie oui. d'aller ?
Mmh. J'ai commencé un peu à l'envers, parce que d'habitude, on commence avec les documentaires et on va vers la fiction. Moi, j'ai commencé par la fiction et j'allais de plus en plus vers les documentaires. Il y avait plus d'aventures, aller en Chine, aller en Afrique. C'était, je ne sais pas, et plus... J'aime beaucoup l'improvisation, les choses...
Vous aviez plus de liberté par rapport à...
Peut-être, mais c'est pas la... Pour moi, c'est pas la question de liberté. Oui, la liberté plutôt de l'espace entre les studios ou, bon, les appartements parisiens, des films quand même souvent bourgeois. Aller vers ailleurs, vers d'autres lieux, vers d'autres langues, m'a beaucoup, et lentement, quand j'avais le choix entre deux, souvent, en même moment, c'est comme ça que ça a commencé, j'ai choisi aller en Chine, aller, bon. Et après, lentement, on dit plusieurs fois non à une fiction, et lentement, ça s'est fait comme ça. Je continue toujours à faire les deux, mais c'est vrai que j'aime faire les deux. Je crois que l'un vraiment, que les passages de nouveau de l'un à l'autre, fiction, oui, c'est toujours la même chose. Ce n'est pas être dans une chose, d'aller les uns à l'autre, de l'une à l'autre, hein, ou de l'un à l'autre, et que l'un nourrisse l'autre. C'est-à-dire que la fiction est nourrie par les documentaires et les documentaires par la fiction. Même des mouvements de caméra compliqués, peut-être j'ai appris en fiction, mais après je savais le faire avec une caméra à l'épaule. Et pareil, avoir comme ça, utiliser la lumière, on dit « available light » en anglais, la lumière qui existe, utiliser aussi cette lumière ou refaire cette lumière naturelle dans les fictions, hein. Mais je regarde beaucoup, je suis très influencée par Vermeer, c'est-à-dire que, bon, pour la lumière de jour, c'est Vermeer, pour la lumière de nuit, c'est évidemment, c'est Georges de la Tour, bon, c'est Rembrandt.
Al-Ouf Mashal, Ouf Mashal, Ni, Manit Ballit, Ouhouille, بلاني عالقوف مشعل قوف مشعلاني ما نتبلت هو اللي تبلاني أنا شفت واحد واقف جنب البركي حكيته عربي جاوبني بت تركي نسوان تحكي والأطفال تبكي مع مين نحكي تركي أو ألماني عالقوف مشعل قوف مشعلاني ما نتبلت هو اللي تبلاني
C'est Amal Mourkous et c'est dans votre film Nourrit à vivre d'une langue à l'autre.
Oui, et les textes disent, c'est une vieille chanson palestinienne. Bon, je prends au milieu, elle dit, j'ai vu quelqu'un près du bassin, je lui ai parlé en arabe, il m'a répondu en turc, les femmes parlent, les enfants pleurent, à qui parler en turc ou en allemand? Je ne peux pas dire de quoi il s'agit, mais j'aime bien une vieille chanson palestinienne qui arabe, turc, allemand, bon, toutes ces langues qui sont là.
C'est donc le premier volet de cette trilogie dont Traduire, qui est sorti il y a quelques jours, est le dernier volet, d'une langue à l'autre en 2004. Vous allez à la rencontre de poètes, de chanteurs, d'écrivains israéliens et palestiniens qui évoquent leur relation avec l'hébreu, langue apprise tardivement pour eux, et la langue de leur enfance. Donc chacun parle de ce rapport très intime avec ses langues. Et vous choisissez un dispositif très simple. Vous nous présentez chaque personne debout devant sa maison, face à la caméra, immobile, silencieux, on pourrait dire des portraits, un pied, au seuil de leur maison. Et je crois qu'il y a un jeu de mots entre le mot seuil et le mot lèvre.
Langue aussi. Oui. Et langue. En fait, le film commence au bord de la mer avec un long plan séquence, justement, avec mon texte. Le film s'appelle Misafa le Safa, mais Sfat Yam, c'est le bord de la mer. Hein. Safa, c'est le bord de la mer. C'est aussi les lèvres qui veut dire la langue. Je veux dire, la langue hébraïque, c'est une langue, s'appelle les lèvres. Et voilà, c'est Safa. Et ils sont au seuil de leur porte, de leur maison, ça veut dire Saf. Donc, vous voyez, c'est-à-dire déjà Safa, lèvres, bord de la mer, bord de leur maison, qui est le seuil, bon, Saf, Safa, oui, j'aime beaucoup ça. En fait, il y a les mots, les jeux de mots qui m'incitent les images. C'est par les mots que j'arrive souvent aux images.
Les images naissent des mots.
Parfois. Mais je ne les sais même pas, parce que je n'ai pas pensé au moment où je fais. Hein, après coup, j'ai compris.
Et alors, parmi ces écrivains, ces artistes que vous avez interrogés, il y a Aaron Appelfeld, très célèbre écrivain. Il avait 14 ans lorsqu'il est arrivé en Palestine en 1946, après s'être évadé des camps nazis, s'être caché dans les forêts d'Ukraine et avoir traversé toute l'Europe. Il raconte tout ceci dans Histoire de ma vie. Sa langue maternelle était l'allemand, qui était la langue d'une bourgeoisie juive laïque intégrée dans un pays comme la Roumanie où il était né. Et Aaron Appelfeld, il dit qu'il arrive en Palestine, en 1946, donc, sans langue.
Oui.
Bègue.
Parce que pendant toute la guerre, il était avec les voleurs ukrainiens, où il n'a pas... Il dit qu'il ne savait pas qu'il est juif, je doute, mais soit, ils ont volé des chevaux. Et il était petit, donc ils l'ont pris avec eux parce que ça les a aidés. Et il n'a plus parlé l'allemand, donc il a oublié l'allemand, puisqu'il a parlé l'ukrainien. Et quand il arrive, il apprend à écrire, à lire, à écrire, parce qu'il ne savait pas lire et écrire dans aucune langue. Donc il apprend en hébreu et il apprend la langue et l'écriture hein, en même temps.
Et alors, dans les années où Aaron Appelfeld arrive en Palestine, et puis après, dans les années 50, le mot d'ordre en Israël, c'était « parle hébreu », c'est-à-dire « oublie ton passé », dit Appelfeld, « ta personnalité ». Il fallait construire une autre vie, faire table rase. Et ce qui est très beau dans ce qu'il dit de son apprentissage de l'hébreu, c'est combien... cet apprentissage était dur, c'est comme creuser une montagne, dit-il. Et de la langue hébraïque, il dit, c'est comme se remplir de gravier. C'est donc comme des sonorités, des mots
très durs.
Très durs.
Oui, pour lui qui a la voix toute douce, bien qu'il parle en hébreu et qu'il dise que c'est maintenant sa seule langue et qu'il appelle langue maternelle. C'est ma seule langue, il dit c'est ma langue maternelle. Mais c'est comme s'il adoptait, c'est-à-dire comme si c'est la langue maternelle d'adoption. Voilà, il est un écrivain en hébreu et qui ne sait pas écrire dans une autre langue.
Et il y a aussi, chez lui, comme chez d'autres personnes que vous avez interviewées, le retour inattendu, par surprise, de cette langue première qui a été oubliée, perdue, refoulée, et quelque chose affleure. Parfois, c'est juste, c'est même pas un mot, c'est un bout, c'est le bout d'un mot.
Oui, mais c'est vrai, c'est-à-dire que le... Mais il les découvre tard. Par exemple, Ouliel, le chanteur, il dit qu'il redécouvre qu'on a tout. Il a dit qu'on a eu honte de parler l'arabe marocain. En fait, il dit le marocain. Dans une ville de Sderot où 95% de gens venaient du même endroit. Donc, ils avaient honte de qui ? C'est-à-dire, ils ont honte, ils mettent la radio tout bas quand ils écoutent l'arabe. Ils la mettent tout bas. Et en même temps, ils le font tous, là. Vous voyez, comme ça, il y a des maisons l'une d'un côté de l'autre. Ils font tous pareil. Ils
où tout le monde écoute des chansons en arabe, portes et volets fermés.
Oui, c'est ça. Mais tout le monde fait pareil. Et ils ont honte de qui, puisqu'ils sont tous pareils. Donc, c'est comme s'il y avait un grand autre, les grands frères, qui les regardaient. Et ils avaient honte. Et lui, quand il découvre à un moment donné, il chante tout le... Il chante dans de mariage, etc. Donc, il a chanté dans plein de langues, évidemment. Au début, en anglais, après, dans d'autres langue. Et après, quand il a commencé à chanter en marocain, il a vu que les gens s'élevaient, qu'ils étaient tout contents, qu'ils étaient bon. Quand on chante, et là, je crois que peut-être on va écouter sa chanson dans les deux langues, hein, qu'il chante dans deux langues.
Chaim Ouliel, Nourit Aviv, qui chante en hébreu et en arabe, qui passe d'une langue à l'autre.
Oui, dans le même... Dans
il la chante même chanson,
la
même...
Oui, il chante la même... Il traduit, en fait. Hein. Il chante le même mot en arabe et en hébreu.
Et vous parliez, Nourit Aviv, de ce sentiment de honte, d'humiliation. Enfin, quand je dis vous parliez, c'est aussi ce que disent... plusieurs des personnes que vous avez rencontrées, interviewées. Et il y a la nécessité d'oublier sa langue maternelle, enfin l'oublier à différents degrés, mais de faire place en tout cas à une autre langue, parce que c'est dans cette langue-là que peut se faire l'intégration, c'est par cette langue-là qu'on peut être comme les autres. Et à tel point qu'il y a Maier Wieseltier qui lui parle de meurtre. Du moment où j'ai voulu pénétrer l'hébreu et écrire, j'ai dû assassiner la langue russe, l'éliminer.
Oui, il va très loin. Mais il dit, lui, prétend que ce n'est pas l'idéologie dominante, c'est que c'est sa volonté privée, qu'il savait à 8 ans qu'il veut écrire, qu'il veut devenir écrivain en hébreu. Et pour le faire, la langue maternelle, elle dérange. Donc il fallait, selon lui, l'éliminer. Appelfeld dit un peu la même chose, mais dans d'autres termes. Hein. Il ne parle pas d'assassinat, mais quand même, comme si l'autre langue, les bruits de l'autre dérangent à écrire dans celle-là, surtout si elle acquise plus tard, peut-être.
Et puis, là, il y a la poétesse Aviva Pedaya, qui, elle, est, je crois, immigrante de la deuxième génération. Elle vient d'Irak.
Elle est née en Israël, mais elle parle de la langue de la maison, c'est-à-dire qui est non les générations d'avant que l'arabe existait dans ses oreilles plutôt.
Et elle dit
dans la musique surtout.
Et elle dit je parle de mon hébraïté, de mon arabité comme de deux essences que relie un point aveugle.
Je dois le dire en hébreu, hein, parce que c'est un poème. Elle dit Ben arviuti ve'ivriuti nekudat ivaron. C'est-à-dire, vous entendez que le point aveugle en hébreu ressemble à ivriuti, l'hébraïté, arviuti, l'arabité, et le point aveugle, nekudat ivaron. Et pour elle, c'est là où jaillissent la poésie, hein, dans de ce point aveugle entre les deux langues. Et c'est formidable. Pour elle, hein, c'est pas l'une ou l'autre, c'est entre les deux. Et la même chose est dit. Pas de la même manière, dans une autre poétesse hongroise qui, elle aussi, parle de cet endroit entre les langues et d'où jaillissent sa poésie à elle, et à Gimich Hall. Hein, c'est intéressant que deux qui se sont... Bon, parlent du même endroit entre les langues. Et à Gimich Hall dit que ce n'était pas automatique pour moi. Donc, entre les langues, c'est là où de là vient la poésie.
22 אותיות יסוד חקוקות בכל חצובות ברוח קבועות בפה בחמישה מקומות בגרון בחך בלשון בשיניים בשפתיים 22 אותיות שקשר בלשונו וגילה את סודו משכן במים דלקן באש רעשן ברוח בערן בשבעה נהגן בשנים עשר מזלות 22 אותיות חקקן חצבן שקלן המירן צרפן צר בהם נפש כל יצור וכל העתיד לצור
C'est Victoria Anna qui récite, qui scande un texte mystique, probablement du IIe siècle, livre de des créations, 22 lettres de l'alphabet, chiffres de l'univers, de la création, 22 lettres gravées par la voix, taillées par le souffle, fixées dans la bouche et cinq endroits, gorge, palais, langue, dents, lèvres, 22 lettres liées à sa langue, dévoilent son secret, et il les a plongées dans l'eau, brûlées dans le feu, agitées dans le vent, brûlées dans le sceptre, etc., etc. À l'image, on voit le visage de Victoria Anna, qui accentue l'expression des yeux, des lèvres et ses mains qui étirent ses lèvres à certains moments, qui font des gestes comme si elle parlait un langage des signes.
Oui, elle est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Ça devient de plus en plus extatique. Hein. Mais ce qui est, c'est l'histoire de. Mystique de la création du monde avec les lettres de l'alphabet. C'est quand même formidable. Il y a même un Midrash, une histoire qui raconte que Dieu a regardé la Torah en créant le monde. Donc la Torah existe avant la création du monde. C'est un rapport à la lettre hébraïque qui est très fort dans la tradition juive, surtout kabbalistique.
Et Nourit Aviv, ce qu'on vient d'entendre est extrait de votre film « Langue sacrée, langue parlée » en 2008, où vous prolongez la réflexion d'une langue à l'autre. Et ici, c'est à l'intérieur même de la langue hébraïque que vous allez chercher et amener les personnes que vous avez interrogées. Donc ce sont les strates. De la langue hébraïque qui sont évoquées, qui sont mises en lumière, et de cette langue qui, pendant des siècles, a été une langue sacrée, langue d'écriture et de prière, une langue congelée, comme dit l'une des personnes interrogées pendant deux millénaires, et qui ressurgit comme langue parlée quotidienne avec la création de l'État d'Israël. Et alors, qu'est-ce qu'a représenté cette réanimation qui s'est faite non sans violence envers d'autres langues? Qu'est-ce qui a été préservé? Qu'est-ce qui a été refoulé? Et qu'est-ce qui affleure voilà. Et ça, ce sont des questions auxquelles répondent encore une fois des écrivains qui écrivent en hébreu aujourd'hui.
Je dois dire qu'il y a un et seul qui dit qu'elle est congelée. C'est Edgar Keret. et je suis pas d'accord avec lui. Bon, c'est une discussion. C'est-à-dire que la langue a toujours hébraïque, a toujours était jamais morte, et parce qu'on a toujours tout au long de l'histoire continué à inventer des mots. Et je crois que tant qu'on invente des mots dans une langue, et elle est pas morte, même si elle est pas parlée de la mère à son fils comme langue maternelle, elle était quand même du père au fils, etc. Et il y avait toujours, on a toujours inventé dans cette langue, et y compris la poésie, comme on voit dans le troisième film, il y avait la poésie au Moyen-Âge, en Espagne, et puis les rabbins se sont toujours écrits, c'était la lingua franca, de quotidien de juifs, donc ils étaient obligés d'inventer des mots. Et par exemple, Maïmonide, qui a écrit en arabe, en lettres hébraïques, il a été traduit par les Thibonides, en hébreu, parce que c'était, si on voulait que ce qu'il a écrit soit lu, par exemple, des juifs de Pologne, bon, c'était traduit de l'arabe, de judéo arabe en hébreu pour que ça passe. Et là, on a inventé plus de mots que peut-être il y a dans la Bible, juste pour dire que cette langue a toujours existé. Et puis, elle renaît, comme je l'ai dit aussi dans le film, traduire avant le sionisme. Elle renaît avec la modernité en Europe. Et elle était, je parle de la langue non religieuse, c'est-à-dire qui est renouvelée, et ça arrive avant le sionisme. Dans le film Traduire, il y a quelqu'un qui raconte tout ça en yiddish.
Oui, exactement. On va arriver à ce dernier film, à Traduire, mais juste, j'aimerais qu'on évoque le début de Langue sacrée, langue parlée. Le film commence avec des images de 1897. Les frères Lumière avaient envoyé à ce moment-là en Palestine Alexandre Promio. Et sur le train, il est à bord du train Jérusalem-Jaffa et il fait le premier travelling de l'histoire du cinéma. Et vous commencez votre documentaire par ces images d'archives. Et puis tout naturellement, vous glissez de ce travelling, premier travelling de l'histoire du cinéma, à votre travelling à vous, où vous reprenez le trajet de Promio, mais cette fois-ci, vous partez bien de Jérusalem, la Sacrée, mais vous arrivez à, non pas à Jaffa, mais à Tel Aviv.
C'est la même ville aujourd'hui, ça s'appelle Tel Aviv-Jaffa.
Oui, mais c'est devenu la profane.
Oui, la profane, absolument.
Et alors, ce glissement, justement, d'un passé, ici celui du cinéma, un présent du cinéma qui est le vôtre. Et est-ce que ce n'est pas une manière aussi de montrer, de mettre en image ce glissement, ce passage d'une langue ancienne à la langue d'aujourd'hui ?
Mais Jérusalem,
Oui,
mais la sacrée vers soi-disant.
Oui, mais dans le passage que vous faites à l'image, il n'y a pas de violence. Alors que peut-être il y en a davantage dans le passage de la langue ancienne à la langue contemporaine.
Je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est la même. On croit que ce n'est pas comme les Grecs anciens. Bon, il y a beaucoup... Les linguistes discutent si c'est la même ou pas la même, mais c'est la même. C'est les mêmes mots, les tiers de vocabulaire. Au moins, c'est les mêmes mots qu'il y a dans la Bible. Et après, d'autres couches de la langue qui sont dans l'hébreu d'aujourd'hui, c'est la même. Mais ce n'était pas une langue parlée, évidemment. C'est différent parce que ce n'est pas une langue parlée. Mais ce que j'évoque dans ces travelling, parce que je tiens, c'est l'occasion de les dire, ce qui est intéressant, que je prétends que dans cette même année, je crois...
1897.
Est né le sionisme, le cinéma. Et Freud commence à écrire ses rêves. Donc... voilà, c'est né en même temps psychanalyse, cinéma et sionisme.
Et qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion de cette conjoncture ?
Que c'est quelque chose autour de la modernité, et c'est-à-dire que les trois sont des événements modernes. Peut-être pour moi, l'interprétation des rêves, trois formes d'interprétation des rêves. Et tout le monde évoque le train. Je suis dans un train et Herzl dit il faudrait que dans ces pays futurs, chacun parlera sa langue, qui est la patrie de ses pensées les plus intimes. Et il donne l'exemple parce qu'il dit qui parmi nous pourrait acheter un billet de train dans cette langue ?
En hébreu.
En hébreu. Il se trompe. Lui, il ne savait pas le faire. Mais il y avait à la même époque, un peu plus à l'est que lui, des gens qui auraient pu acheter un billet de train dans cette langue parce qu'ils avaient le mot pour le dire.
Nourrit à vivre, traduire. Cette fois-ci, vous êtes allée à la rencontre de traducteurs qui tous traduisent de la littérature hébraïque, chacun dans sa langue. Et d'ailleurs, dans le film, chacun parle sa langue maternelle. On entend l'espagnol, le français, l'anglais, l'italien. Une pluralité de langues. C'est comme si ce troisième volet était une sorte d'étoilement, d'explosion de multiplicité de langues, alors qu'on est passé à travers le premier et le deuxième documentaire, on était dans une langue finalement.
C'est un peu il est un peu l'envers du premier. Dans le premier, on parle en hébreu de toutes ces langues refoulées, repoussées, oubliées, etc. Et là, c'est l'envers. On parle dans toutes les langues pour parler de une, de la traduction de une. C'est comme si c'était le contraire, hein, un éclatement dans toutes les langues pour parler de une, oui.
De une, donc la langue hébraïque, mais qui est aussi multiple, puisque voilà, il y a la langue absolument du Midrash, il y a la poésie hébraïque du Moyen-Âge, il y a la littérature du 19e, 20e siècle. Et alors,
et derrière, la Bible toujours présente.
Oui. Donc, je pense par exemple à ce traducteur qui a traduit la poésie de Ibn Gabirol, donc en espagnol. Et je pense à cette traductrice italienne qui a traduit en particulier Agnon en italien, et qui dit avoir agnonisé l'italien. C'est-à-dire, elle a dû pousser au maximum la tension supportable par la syntaxe italienne, et parce qu'il fallait, dit-elle, affronter le noyau dur d'une langue sacrée qui demeure à l'intérieur de la langue d'Agnon. Et ce noyau dur est celui qui résiste, celui qui ne veut pas être traduit.
Oui, parce qu'en hébreu, même si les gens ne les savent pas toujours, il y a beaucoup de citations de couches d'avant. Et Agnon, c'est vraiment, vraiment c'est lui qui a tout le temps des citations de sources. Mais elle parle, ce qui est vraiment intéressant, elle parle de la cruauté d'Agnon, c'est-à-dire qu'il utilise les sources. Il ne dit pas d'où ça vient. Et pas seulement il ne dit pas d'où ça vient, parfois il prend la moitié de la phrase, qui a l'air très sage comme ça. Mais si on lit l'autre moitié qui n'est pas citée, parce qu'il part de l'idée que tout le monde, comme les Juifs avant, parce que les Juifs avant, ils faisaient comme ça, les Talmuds faisaient comme ça. On cite un bout d'une phrase, par exemple, de la Bible, mais on ne dit pas le reste, parce qu'on savait que tout Juif savait la suite. Et là, lui, moderne, qui sait que les autres, il ne les cite pas. Mais la deuxième partie de cette phrase, elle dit le contraire parfois de la première. Et du coup, ça donne un effet d'ironie et d'humour tout le temps. Mais pour les comprendre, il faut aller loin. Et elle parle de la cruauté d'Agnon qui fait exprès, il torture ses lecteurs et évidemment ses traducteurs.
Et encore plus,
traducteurs. Et qu'il les fait avec une certaine. Un certain plaisir, hein, de dire ah, vous savez pas, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ironie chez lui qu'on n'entend pas tout de suite. Hein.
Et alors, il y a un autre traducteur qui, lui, enfin, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui traduit de l'hébreu à yiddish.
Oui, il a fait surtout, lui, Niborski, il a fait surtout un dictionnaire des mots hébraïques en yiddish. Mais il faut, si on écoute l'yiddish, si on écoute le film, quand on voit dans le film, on entend que l'yiddish est une langue germanique complètement, hein, c'est-à-dire à 95% elle est germanique, avec peut-être 10 ou 15% d'hébreu dedans. Et lui, il fait un dictionnaire de mots hébraïques en yiddish, de 10 000 mots. Mais il n'a pas fait un dictionnaire hébreu-yiddish, c'est un dictionnaire yiddish-yiddish, hein, dans lequel il y a les mots en yiddish. Et lui, il parle surtout de quelque chose de formidable, qui est qu'à cette époque-là, hein, qui est la fin du 19e, dans la littérature, il y avait deux littératures parallèlement, hébraïque et yiddish, en même temps, et que c'était les mêmes gens qui pouvaient écrire dans l'une ou dans l'autre, ou se traduire eux-mêmes. Et il donne l'exemple de Mendeley, qui s'est traduit lui-même. Donc, au départ, Mendeley écrit dans la langue de la culture, en hébreu. Après, il s'est mis à écrire en yiddish, qui est la langue de peuple, pour qu'il y ait plus de lecteurs. Et après, il s'est traduit lui-même en hébreu. Et en le faisant, il met beaucoup de yiddishisme dans ce nouveau hébreu. Dans le nouveau hébreu, il met pas seulement biblique, mais la langue midrashique, talmudique et mishnaï, qui est beaucoup plus parlé, comme dit Sandrick, le premier dans mon film qui parle de midrash. Et tout ça, Mendeley fait en traduisant du yiddish en hébreu. Et là, il change complètement la langue hébraïque. Il lui donne un élan et une il élargit la langue, parce que les dialogues, on ne peut pas écrire des dialogues dans une langue biblique. Bon, ce n'est pas fait pour. Et du coup, tout ça, on est avant le sionisme. Et Mendeley lui-même ne l'était pas. Hein. Après, tout le monde, là, il était vraiment le père de l'hébreu moderne. Hein. Mais lui, il voulait le faire à l'intérieur de cette... on est avant, c'est dans la modernité que les deux langues renaissent dans la littérature, née dans ces deux langues en parallèle. Hein, et c'est les mêmes qui l'écrivent, c'est extraordinaire.
Le premier traducteur qui apparaît dans votre film, traduire, parle du Midrash, commentaire du texte biblique. Et il dit il n'y a pas de hiérarchie chronologique. Il y a des opinions contradictoires, qui ne s'excluent pas. Il y a des récits qui se génèrent, qui s'autogénèrent, qui prolifèrent. Beaucoup de jeux de mots. Et Nourita Vive, cela m'a fait penser tout simplement à votre cinéma, à la façon dont vous donnez la parole aux uns, aux autres, sans jamais hiérarchiser, sans jamais imposer un point de vue, laissant... la liberté de contradiction entre les uns et les autres et surtout la liberté de réfléchir au spectateur. C'est un modèle, le Midrash.
C'est absolument un modèle, mais je voudrais quand même là dire, j'ai vu aujourd'hui Judith Miller, donc la fille de Lacan, qui m'a dit, les Midrash fonctionnent comme l'inconscient. Moi, je ne fais pas de la théorie, mais pour moi, les Midrash fonctionnent comme le rêve, hein. Pas d'hiérarchie de temps, c'est-à-dire Moïse peut rencontrer quelqu'un de deuxième siècle, il y a des contradictions qui ne sont pas résolues, beaucoup de jeux de mots, ça fonctionne, l'inconscient, moi je dis les rêves, parce que ça, j'essaie de mon expérience, les midrash, j'ai l'impression qu'il y a les mêmes fonctionnements. Je ne parle pas l'interprétation des rêves, je parle le fonctionnement même. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment le meilleur compliment que vous pouvez me faire. J'ai vraiment voulu faire un film midrashique, talmudique.
Merci Nourita Vive. Je rappelle que votre film, donc le dernier, Traduire, est montré tous les jours au cinéma Les Trois Luxembourg à Paris, qu'il y a énormément de discussions et de débats à la fin de certaines de ces projections, et qu'il va exister un DVD en même temps. Donc c'est la trilogie qui est réunie dans ce coffret, plus
un livret dans lequel il y aura tous les textes de 4 films en français et dans la langue originale, donc au moins 10 langues en face du français.
Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'était Affinité élective, une émission de Francesca Isidori, attachée d'émission Claire Poinsignon, à la technique Jean-Michel Bernot, réalisation Isabelle Huel. Une émission que vous pouvez écouter ou réécouter et podcaster sur le site franceculture.com. Merci à tous et dans un instant, la fiction.